Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Persons of Internet. Aujourd'hui, on se retrouve dans un contexte où les questions de souveraineté et du monopole des GAFAM se font de plus en plus présentes, notamment en France, mais pas que. À titre d'exemple, en avril dernier, on entendait parler de la cartographie quelque peu lacunaire du Sud-Liban sur Apple Plan. De prime abord, on imagine plutôt les cartes comme un outil objectif, mais elles se révèlent finalement pas si neutres que ça. Dans ce cadre, les outils libres, collaboratifs, open source ou encore l'open data reviennent sur le devant de la scène. Il y a un an, nous recevions Samuel Goeta avec qui on avait pu décortiquer les ressorts de l'open data et en quoi ça pouvait représenter un vrai levier démocratique et citoyen. On prolonge aujourd'hui la discussion dans cet épisode en recevant François Lacombe, également consultant chez Dataactivist et bénévole pour OpenStreetMap, entre autres casquettes. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Eh ben, de rien, Sarah. Bonjour à toutes et à tous. Merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir d'être avec vous à vos côtés parce qu'on partage énormément de terrain en commun, je crois, sur beaucoup de sujets. Peut-être un peu de fond à propos de moi. Je suis. J'ai effectivement plusieurs casquettes. J'ai un background d'ingénieur. J'ai une formation d'ingénieur en télécommunication et ça m'a permis d'avoir un parcours assez varié, qui jusqu'à aujourd'hui me pousse à m'intéresser aux questions de données et de gouvernance. Mais j'ai eu l'occasion de travailler pour un opérateur de télécommunication, un éditeur logiciel, pour l'industrie. Et aujourd'hui, je fais donc du conseil pour Dataactivist auprès d'acteurs généralement qui touchent à des économies en réseau. Donc des gestionnaires de réseau, des collectivités, des administrations centrales aussi, hein, qui s'occupent de la régulation de toutes ces questions. Et en parallèle de ça, j'ai cet engagement auprès d'OpenStreetMap, c'est très ancien. Je crois que j'ai commencé à contribuer vraiment en 2012, ça fait près de 15 ans maintenant. Et j'ai pu voir d'ailleurs l'évolution de ce projet qui est très structurant, on va avoir l'occasion d'y revenir.
Je pense qu'on y reviendra.
Du coup, est-ce que d'emblée tu pourrais rappeler peut-être en quelques mots qu'est-ce que l'open data et peut-être la différence avec l'open source, histoire que toutes ces notions soient bien claires d'emblée?
Ouais, il y a beaucoup de open et on s'y perd. Il y a de plus en plus de domaines dans lesquels l'ouverture s'exerce. L'open source, c'est surtout quelque chose qui est lié au logiciel. Donc c'est le fait d'ouvrir le code source dans plein de variations différentes, hein, mais c'est le fait de le rendre accessible pour qu'on puisse l'observer. C'est ça le fondement vraiment de l'open source. Et pour l'open data, c'est un peu différent parce que là, on va traiter de la donnée et c'est le fait de la mettre à disposition dans des conditions plus ou moins permissives. Là aussi, il y a des variations, mais qui vont permettre non seulement d'y accéder et parfois de la réutiliser aussi dans de très très bonnes conditions.
Merci pour cette petite clarification d'emblée. Alors en préparant l'interview, on lisait justement une autre interview de Jaime Arredondo qu'on avait d'ailleurs reçu dans le podcast à propos de l'outil Grist, donc qui est un commun numérique qui a un peu le vent en poupe en ce moment et qui sert entre autres du coup à créer des bases de données. Et justement, Jaime disait que pour qu'un outil soit adopté, il faut un accompagnement et que cet accompagnement passe notamment par la structuration d'une communauté qui entre autres va documenter, transmettre, contribuer. Est-ce que tu pourrais toi un peu nous expliquer ce que ça veut dire être contributeur, être dans une communauté dans des projets comme cela?
Oui, parce que c'est vrai qu'autour de la donnée, enfin on parle souvent de la donnée, mais il y a tout ce qui se passe autour, et souvent les difficultés viennent avec ce qui se trouve autour. Et on a trouvé, et du coup, ce moyen, enfin le numérique favorise voilà, ce fonctionnement-là en communauté, produire quelque chose en commun, des communs numériques, avec tous ces outils, et c'est le fait du coup de s'insérer dans un groupe qui va contribuer à la prospérité finalement d'un objet, d'une base de données en particulier, en répondant à des règles de gouvernance partagées. C'est-à-dire que quand on arrive au sein de ce groupe, eh bien, on va soi-même probablement contribuer aux règles qui régissent le groupe, mais on va d'abord respecter celles qui sont déjà en place, de sorte à pouvoir apporter sa contribution à quelque chose qui nous dépasse un petit peu. C'est aussi ce qui résonne, ce qui m'a permis de m'engager dans ce genre de choses, parce que ça me parle beaucoup, le fait qu'on puisse apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est un peu comme ça que je définis le commun.
Tu pourrais un peu peut-être développer sur les différentes manières justement de contribuer, parce que souvent on voit dans des projets comme ça qu'en fait on a des profils de personnes qui sont très différents, il y a des gens qui vont savoir coder, d'autres non, etc., etc. Du coup, est-ce que, bah, peut-être à partir de l'exemple d'OpenStreetMap, du coup, que tu connais très bien, tu aurais des billes à partager sur ça?
Oui, en réalité, la richesse de la diversité va bien au-delà des questions techniques, parce qu'il y a déjà une diversité dans la technique, hein. Chacun a ses préférences, a ses compétences et va pouvoir les apporter, mais ça va au-delà. On a nous-mêmes nos sensibilités sociétales de différents niveaux. Et donc dans le comment, on va retrouver toute cette richesse, parce que chacun va pouvoir y apporter ce qui compte pour lui et son expérience. Et donc de OpenStreetMap, ça se manifeste, je dirais, encore plus qu'ailleurs, parce que dans la cartographie, on n'est pas tous au même endroit et on n'est pas tous de la même origine et de la même expérience. Et dans OpenStreetMap, ça s'exprime vraiment parce qu'on va retrouver des ingénieurs, des bénévoles de différents horizons, des artistes, tout un tas de catégories, d'ailleurs, je ne pourrais pas citer, tant c'est riche, parce que les gens voilà, vont avoir à cœur de décrire leur environnement proche, lointain, un endroit qu'ils apprécient particulièrement, des choses comme ça, et aussi la manière qu'on a de décrire les choses, parce qu'il y a la volonté de cartographier un endroit, puis il y a la manière de le faire. Et ça dépend aussi beaucoup du fond des personnes qui peuplent ce commun. Donc dans OpenStreetMap, on a véritablement toute cette richesse.
Je me rends compte là en t'écoutant qu'en fait on n'a pas défini ce qu'était OpenStreetMap. J'avoue que c'était un peu un biais, mais du coup est-ce que peut-être tu peux rappeler un peu les tenants et les aboutissants du projet qu'on perçoit déjà?
Oui. OpenStreetMap, c'est clairement un commun numérique. C'est une base de données qui a été créée à l'origine pour collecter de l'information détenue par tout un tas de gens qui donc se regroupent hein, pour constituer cette base de données et à la fin produire une carte, voire une multitude de cartes. Parce qu'à partir de la base de données, on peut faire énormément de choses. Et donc, ça nous permet de constituer cette connaissance du monde à l'image de ce que fait Wikipédia pour l'encyclopédie. Nous, on le fait pour les données géographiques. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une base de données complétée par une multitude de gens à de plein d'endroits différents. C'est mondial et on peut y retrouver tout ce qu'on voit. L'enjeu d'OpenStreetMap, c'est de décrire ce qui est visible et ce que chacun peut vérifier. C'est ce qui fait la force de cette base de données parce que c'est-à-dire que si j'y mets quelque chose avec mes yeux, que je constate avec mes yeux, il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être le voir différemment et on va discuter de la manière dont cet objet existe. Mais si j'y mets des choses que personne ne voit, ça va pas fonctionner. Je vais être le seul à pouvoir le vérifier et autres. Et donc c'est pour ça que sur OpenStreetMap, on s'attache beaucoup à décrire ce qui est visible et vérifiable.
Du coup, je fais un parallèle parce que tu mentionnais Wikipédia. Est-ce qu'on peut dire qu'OpenStreetMap marche un peu comme une revue par les pairs, un peu de la même manière que sur Wikipédia, où on ne peut pas soumettre une modification comme ça, il faut que ce soit vérifié un peu de manière collégiale. Est-ce que finalement, ça revient un peu au même, mais version carte?
Il y a quelques différences. Il y a des différences entre Wikipédia et OpenStreetMap. Par exemple, la bureaucratie est beaucoup plus forte sur Wikipédia, alors que sur OpenStreetMap, la modération est faite intégralement a posteriori et avec des règles beaucoup plus, je dirais, légères. Bon, c'est un biais de ma part. Je suis plus proche du côté OpenStreetMap que Wikipédia et je veux pas du tout. C'est pas une critique de Wikipédia. Hein. C'est pas pareil de faire d'accumuler du savoir encyclopédique et de faire une carte. Les choses sont tout à fait différentes. Donc c'est normal qu'il y ait ces différences-là. Mais donc sur OpenStreetMap, on va avoir quelques principes structurants qui sont vraiment observés, mais par contre le reste, il y a une grande liberté qui est laissée parce qu'il faut qu'on puisse expérimenter. Le domaine de la cartographie, au départ, on est parti d'une feuille blanche en 2004. On est parti d'une feuille blanche, il a fallu construire beaucoup de choses. On n'a pas tout construit, mais il a fallu construire beaucoup de choses, dont la sémantique, ce qui fait qu'un objet est un objet et pas un autre. Et donc là-dessus, il faut pouvoir expérimenter, il faut pouvoir décrire de nouveaux objets. Le monde évolue. En 2026, on va mettre des choses sur la carte, des choses qui n'existaient pas en 2004. Tout un tas de choses qu'on voit dans la rue qui n'existaient pas avant. Et donc, il faut se laisser cette grande liberté pour expérimenter avant de généraliser. C'est ça qui fait la particularité d'OpenStreetMap, en fait.
Justement, tu parlais un peu de l'évolution. Qu'est-ce que tu constates peut-être sur le temps long en termes à la fois d'évolution et de défis ou de difficultés? Ça dépend des fois, je pense, dans justement des projets d'open data ou open source, que ce soit peut-être OpenStreetMap, mais je pense que tu as d'autres exemples à nous partager. Donc j'ouvre cette porte-là.
Alors, OpenStreetMap, en fait, j'ai commencé, j'étais encore étudiant. J'ai eu la chance, au fil du temps, de pouvoir regrouper mon activité professionnelle avec cet engagement au départ personnel. Donc, effectivement, j'ai vu l'évolution. La première évolution qu'on peut souligner, c'est le nombre de contributeurs. Il augmente. On aime beaucoup décrire les phases, certaines fois, les moments où on a commencé. On le fait par exemple avec l'intensité carbone. On pourrait parler du nombre de contributeurs journaliers sur OpenStreetMap en France. Quand j'ai commencé, il devait y en avoir peut-être 250 par jour. Maintenant, on est à 500 en France. Et la France est le troisième pays en termes d'intensité de la contribution au niveau mondial. Donc, on constate déjà l'augmentation du nombre de personnes. Après, on va évidemment constater l'intérêt grandissant, ce sont certainement des cycles, mais là, on est dans la phase croissante du cycle sur les données géographiques. Donc, OpenStreetMap se trouve au carrefour de multiples intérêts et on prend de plus en plus la lumière. Donc, c'est aussi positif, en fait. Ce qu'on fait a de l'intérêt et de la valeur. Donc, ça aussi, c'est une belle évolution. Et puis, plus généralement en France, dans le contexte numérique, là aussi, on est dans la phase croissante du cycle. Le numérique prend un essor particulier, mais à plein d'égards, il n'est encore pas assez considéré. Ce qu'on constate récemment sur l'intelligence artificielle va une fois de plus nous le montrer. Donc, il faut continuer de parler du numérique et de construire ces usages vertueux et d'apporter ces briques-là, que ce soit pour l'open data. On rappellera que la loi qui l'encadre en France, la dernière en tout cas, parce que c'est ancien, mais elle a 10 ans cette année. C'est un mouvement qui sans cesse, qui se renouvelle, qui peut mais qui garde ses fondamentaux. Et c'est sur ces fondamentaux-là, je dirais qu'il ne faut pas lâcher parce que c'est un mouvement sur le temps long.
Tu parlais de l'application de la loi. Est-ce qu'il y a des fois où justement on se heurte des difficultés d'application de la loi? Du coup, comment on fait aujourd'hui? Tu parlais de ce qu'on peut cartographier sur OpenStreetMap, donc que ce soit l'intensité carbone ou autre. Il y a quand même pas mal de fois où on n'a pas les données. Enfin, je pense que tu mentionnais l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent, je crois, pour avoir justement accès aux données environnementales, notamment autour des data centers. C'est des choses qui, pour l'instant, sont très, très verrouillées. Est-ce qu'il y a des leviers d'action ou est-ce que c'est encore très compliqué et ça va peut-être sûrement le rester pour des enjeux divers et variés?
Ce qu'il faut dire, c'est peut-être inattendu, mais moi-même, je n'ai pas de formation en droit. J'ai choisi l'ingénierie. Il y a certaines similitudes avec le droit, mais ce n'est pas du droit. Et il se trouve que par ce chemin que je suis dans l'ouverture numérique, je me suis acculturé. Je n'ai pas eu de formation, mais je me suis acculturé aux questions juridiques. Et même si on ne va pas faire de tous les... Enfin, chacun, c'est encore une fois ses sensibilités. On ne va pas faire de tous ceux qui contribuent à cet univers des juristes, mais c'est important de s'y intéresser. Parce que c'est ce qui fait le fondement de notre démocratie. Et par le biais des sujets numériques, on peut effectivement s'intéresser aux questions du droit parce que ça recoupe. Et il y a énormément de sujets, qu'il s'agisse de licences, qu'il s'agisse parfois de propriété intellectuelle, de droit de la donnée, etc. Mais je peux confirmer qu'en effet, à plusieurs reprises, ce parcours croise la route du débat juridique et du débat démocratique parce que il y a en effet des voies légales pour obtenir des données. Alors c'est particulier de le dire maintenant où en fait on fait une fuite de données tous les jours en France, mais non, nous on va s'intéresser au côté légal des choses et il existe effectivement un cadre qui est en France, pour moi, il est très beau ce cadre. Il faut le préserver, il faut le faire vivre. Parce que l'accès à ces données est souvent déjà prévu et il faut faire valoir ses droits pour y accéder. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et sur OpenStreetMap particulièrement, on bénéficie de l'ouverture des données. On réutilise, on enrichit des données ouvertes produites par l'administration, par les collectivités, par tout un tas d'acteurs, parfois privés même, titulaires d'une mission de service public. Et ce n'est pas à sens unique. On accède à ces données, on les enrichit et on restitue aussi. C'est très important cet aspect contributif parce que pour celui qui veut changer les choses, voilà une belle manière en fait de s'investir, d'enrichir et de restituer de la donnée avec des observations qu'on a fait soi-même, je pense. Pour les data centers, c'est un peu particulier parce qu'en effet, il y a des données qui parfois ne peuvent pas être reconstruites par n'importe qui. C'est des données qui... d'une part, elles viennent d'un endroit et cet endroit, il est important. C'est un acteur qui les a produits parce qu'il a accès à une connaissance, parce qu'il a accès à des techniques. Et le fait qu'on puisse les ouvrir, ça va apporter beaucoup de choses. Donc, en effet, il y a des domaines où là, on est obligé d'en passer par l'ouverture de la part de l'acteur qui les a produits, tout simplement.
Dans l'entretien de cadrage, du coup, tu mentionnais justement que les professionnels peuvent contribuer activement à des projets d'open data. Je fais le parallèle avec du coup ce que tu disais à l'instant. Comment une structure, alors j'allais dire pas forcément une entreprise, peut se dire moi je vais décider d'ouvrir mes données ou de contribuer à la réutilisation justement, et peut-être comment ça peut se matérialiser concrètement? Je sais pas si t'as un exemple à nous donner.
Alors, j'ai même plein d'exemples. En réalité, OpenStreetMap, alors il y a plusieurs descriptions, hein, mais j'aimerais citer celle que j'aime beaucoup de Jean-Christophe Becquet. OpenStreetMap, c'est un réseau social. On y trouve tout un tas d'acteurs, y compris des professionnels, des acteurs institutionnels, des administrations, des tiers, n'importe qui souhaitent non seulement mettre à disposition des choses, mais aussi en réutiliser. Et à ce titre, même une entreprise, hein, est tout à fait fondée à contribuer. Toujours dans les règles que chacun observe, bien sûr, et elles sont transparentes et on peut en prendre connaissance hein, avant de s'engager, mais être une entreprise ne nous éloigne pas du fait de contribuer à ces communs, parce que, bon, je vais passer les clichés qu'on dépasse, hein, on les dépasse progressivement, mais parfois on nous le ressort encore, hein, mais enfin, qui vous paye? Et du coup, ben non, c'est pas, il n'y a pas de... C'est pas ça que nous recherchons. Y a un modèle d'activité derrière OpenStreetMap et qui est tout à fait compatible avec celui d'une entreprise. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans mes activités professionnelles précédentes, j'ai été amené à utiliser et à contribuer de manière symétrique pour pouvoir produire des choses. Donc, le côté économique n'est pas incompatible avec ce qu'on fait sur les communs, à condition que ça soit fait dans les bonnes conditions. Évidemment, il ne faut pas le faire n'importe comment. Mais il y a bien toute une palette d'acteurs différents, et c'est ça qui fait la richesse de ce mouvement, parce que c'est un grand média sur lequel on peut échanger de la donnée géographique.
Ça me fait penser un peu du coup, partant de là, est-ce qu'on peut dire que les communs numériques et peut-être de manière plus générale l'open data créent un vrai cycle vertueux en fait?
Oui.
De plein de points de vue différents. Je fais un peu le parallèle justement avec les débats en ce moment sur tout ce qui est souveraineté numérique, etc. etc. On voit que l'État notamment se saisit de pas mal d'outils. On parlait de Grist un peu avant, mais il me semble aussi que OpenStreetMap est utilisé ou des fois propulsé sur des sites de l'État. Est-ce que toi, tu vois une vraie évolution dans la collaboration peut-être entre des entités étatiques très officielles et des outils qui au départ avaient peut-être pas forcément cette vocation-là, mais qui... du fait justement du volume des contributions, de l'intérêt aussi que ça a suscité. Quelle évolution tu vois, toi, par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça va continuer à progresser? Tu parlais de cycle un peu tout à l'heure. Est-ce que, finalement, les communs numériques sont l'avenir du numérique?
Alors, excellente question. En vrai, cette histoire de cycle me tient très à cœur parce que y a une moitié du cycle qui est souvent mal vue ou inconnue ou pas considérée. Et il faut effectivement parler de ce cycle parce que, à beaucoup de reprises, quand on parlait de données ouvertes, c'était souvent vu à sens unique. Ah, mais c'est mon administration qui va publier des choses que vous allez reprendre et vendre et faire tout un tas de choses, mais moi, j'en verrai jamais la couleur. C'est faux. En réalité, justement, l'ouverture, le partage fait dans ces conditions est vraiment facteur de vertu en la matière. Et on peut donc non seulement accéder à de la donnée, mais l'enrichir. Et là-dessus, on a une multitude d'exemples. Je ne compte plus ces exemples sur OpenStreetMap qui montrent que non seulement on a utilisé la donnée publique, évidemment, mais on l'a aussi enrichie sur un temps inconsidéré. Au bénéfice de la collectivité, parce que faut pas se le cacher, je veux dire, les ressources de l'administration ne sont pas non plus infinies, faut se le dire, voilà, le pays a une certaine situation économique, on ne peut pas, la force publique doit se concentrer sur des sujets essentiels, et par conséquent il me semble légitime que le citoyen puisse faire sa part, mais dans des conditions de plus en plus presque confortables, parce que contribuer à OpenStreetMap presque sans s'en rendre compte et que quelqu'un puisse réutiliser ce qu'on vient de faire, et quand c'est l'administration qui le fait, c'est vertueux pour tout le monde. Enfin, je pense qu'on a tout intérêt à avoir, particulièrement en matière environnementale, des données qui sont à jour, qui sont précises, détaillées. Et à ce titre, chacun peut faire sa part. Donc là-dessus, il faut vraiment parler de ce cycle, montrer que ce n'est pas seulement descendant, ça peut aussi être remontant, suivant du côté duquel on se place. Et donc, moi, j'aime beaucoup parler de ça parce que c'est une très belle réponse à ceux qui disent « Non, mais vous allez nous voler nos données et puis, en fait, vous partez avec, on vous voit plus. » Les 10 années d'ouverture de la donnée sous l'angle qui a été choisi par la loi Lemaire montrent que ça n'est pas le cas.
Je pensais, là, en t'écoutant, finalement quelque chose qui a été perçu un peu comme une dépossession au départ, est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, ça permet justement de se réapproprier un certain nombre de choses? Alors, de données, évidemment, mais peut-être aussi en termes de politique publique, quand on voit, tu mentionnais l'environnement à l'instant, quand on voit ce que peuvent apporter plein de projets de open source, open data, de commun, etc., à la réflexion collective. Moi, je trouve que c'est finalement un peu un joli pied de nez, encore plus par rapport à ce qui se passe en ce moment autour de l'IA, de l'appropriation de beaucoup, beaucoup, beaucoup de données par des entreprises privées à but lucratif de manière très ostentatoire. Je trouve que justement, finalement, c'est une belle réponse en montrant que bah, c'est vraiment un autre modèle finalement qui est possible.
C'est vrai que bon, ça a commencé par être un hobby. Et en fait, ça devient une nécessité, c'est très clair. Mais sans parler d'affrontement, hein, dans ce paysage-là, on ne fait pas les gentils contre les méchants. Il y a plusieurs manières d'ailleurs de se réapproprier la connaissance. On en a trouvé un là, et puis il y en a probablement d'autres. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a... même d'ailleurs, sans que ces acteurs, les acteurs que tu mentionnes, voilà, existent, et c'est une réalité, il faut vraiment tenir compte dans nos stratégies. Mais même sans que ça n'existe, sans avoir ce besoin-là, c'est déjà vertueux de permettre à tout un chacun de prendre connaissance de ce qu'il concerne. Parce qu'il y a évidemment tout un champ dans la gestion des données, etc., les données personnelles, les données secrètes. Toutes ces choses-là, d'ailleurs, sont très bien prévues dans la loi et on ne cherche pas à élargir le périmètre qui est déjà prévu. Il est déjà suffisamment large. Et dans ce périmètre prévu par la loi, il y a tout un tas de données, notamment environnementales, qu'il faut maîtriser. Et en fait, c'est un travail tellement conséquent que ça ne peut pas être fait par un seul acteur. Il y a souvent une volonté peut-être un peu trop restrictive de dire « Ah non, non, mais ça, bon, ce sont mes données, je m'en occupe, puis je suis très bien, je suis très à l'aise en fait avec ma base de données. » Le problème, c'est qu'en faisant ça, il y a un travers qu'on voit rarement, c'est que souvent la base de données, soit elle est incomplète, soit elle est fausse, soit elle est inexacte, elle ne répond pas aux besoins. En arrivant d'ailleurs chez Dataktivist, j'ai découvert tout un pan... Dont j'ignorais l'existence, mais l'évaluation des politiques publiques. C'est une discipline à part entière, presque, parce qu'on prend tellement de décisions, avec tellement d'implications, avec tellement de conséquences d'impact, qu'il faut aller vérifier si bah, les décisions qu'on prend produisent les effets escomptés avec le minimum d'effets secondaires. C'est le minimum. Et ça, je ne vois que le partage de la donnée, parfois peut-être un peu large, tel que prévu par le cadre, pour favoriser... juste une observation efficace en fait de ce qu'on fait, parce que c'est tellement complexe. Donc on a bien besoin de gens qui innovent, qui saisissent des données d'une manière qu'on n'a pas prévue au départ. Ça a souvent dérouté, ça. Oui, on va ouvrir les données, mais on ne va pas savoir ce que les gens en font. Mais heureusement qu'on ne le sait pas, parce que si on le savait, ça veut dire qu'on aurait l'évaluation de notre politique publique avant même de l'avoir menée. On sait très bien que ça n'existe pas. Donc rien que pour ce fait-là, et pour bien d'autres, il faut... que les gens saisissent d'une manière très originale et très créative en fait de la donnée publiée pour qu'on puisse suivre ce qu'il se passe.
Ça me fait penser un peu à l'entretien qu'on a vu avec Samuel. Là, tu parlais d'évaluation des politiques publiques. Est-ce que justement l'ouverture des données, en tout cas dans ce genre de cadre, permet pas un certain contrôle, pas forcément dans le sens coercitif, mais un contrôle démocratique de bah, finalement les décisions qui sont prises, les politiques publiques qui sont menées, est-ce qu'elles servent le bien commun ou pas? Est-ce que c'est pas peut-être aussi ce qui peut déranger, surtout dans une perspective très franco-française où on est très centralisateur, etc., etc., que c'est peut-être pas un peu, enfin philosophiquement on va dire, compliqué justement de se soumettre à la, j'allais dire, à la vue de tous?
Ah, c'est sûr que c'est un changement. C'est un changement qui a été amené par ce phénomène d'ouverture et puis aussi de production spontanée de données par des citoyens. Ça, là-dessus, le numérique rebat les cartes depuis longtemps. Hein. Sur ce fait-là, en parlant de ça aujourd'hui, je pense que j'arrive même sur le tard de la question parce que ça fait longtemps qu'elle a été bien vue. C'est sûr que ces nouveaux outils et la nouvelle itération avec l'intelligence artificielle accentuent ces phénomènes-là. Oui, c'est sûr que ça permet d'opérer un contrôle plus efficace. C'est un outil, hein. Et comme tout outil, ça dépend pourquoi on s'en sert, hein. C'est là-dessus, c'est une évidence. Il est certain que là encore, il y a différentes variations, hein, dans le contrôle qu'on peut opérer. On peut y aller de manière très, très pointue à un endroit, ça peut être très vaste. Effectivement, moi, mon domaine, c'est les infrastructures et les réseaux. Et je dirais que là-dessus, c'est souvent des domaines, économiquement, c'est des domaines régulés. Donc, il y a effectivement un certain nombre de contrôles à faire, hein. Ces contrôles, ils sont faits par des autorités administratives, ils sont faits par d'autres administrations, etc. Et le citoyen peut aussi contribuer. Ça aussi, ça a été assez inattendu de la part des acteurs que j'ai rencontrés depuis un certain temps.
Tu aurais un exemple concret pour illustrer ce truc-là?
Oui, un truc alors qui va vous sembler peut-être anecdotique ou insignifiant, mais ça prend. Enfin, pour moi, ça a vraiment de l'importance parce que ça montre la finesse dans laquelle on peut aller sur cette question de réseau. Un truc que j'ai commencé moi-même sur OpenStreetMap et puis ça a fini par donner quelque chose d'assez ambitieux, c'est l'inventaire des poteaux.
Des poteaux électriques?
Tout à fait. En fait, quelque chose qui est. Oui, on n'y fait même plus attention tellement il y en a. Hein. C'est
Ouais.
des millions et millions d'objets en France présents partout. J'aime à dire que OpenStreetMap, c'est une très belle plateforme pour inventorier l'indénombrable. Il y en a tellement qu'on ne sait même plus quand on a fini ou quand on est au milieu, on ne sait même plus où on en est. Donc il faut trouver une méthode pour y arriver. Et je ne pensais pas, parce qu'on mesure du coup la contribution sur tout un tas de sujets, et je ne pensais pas que autant de gens pourraient contribuer sur ce sujet en se disant, tiens, ben moi aussi, je vais inventorier, alors que ce soit les poteaux, les poubelles, les bornes incendie, les bancs, ce qu'on veut. Et en fait, on a énormément de gens, et sur ce sujet, voilà, des poteaux électriques, donc qui touchent à l'aménagement du territoire, à l'adaptation au changement climatique, à la transition énergétique et numérique, eh bien, aujourd'hui, on a plus de 2 400 personnes depuis 2020 qui ont au moins ajouté un poteau dans la base de données. En en parlant avant 2020 aux acteurs concernés, beaucoup m'ont répondu, franchement, on ne pense pas que qui que ce soit va prendre du temps pour contribuer là-dessus. Hein. C'est un sujet qu'on n'imagine même pas. Et pourtant, ça fait ses preuves. On montre que ce qu'on appelle donc le crowdsourcing peut fonctionner sur des sujets de niche comme celui-ci et rendre des services signifiant, parce que bon, bah, les réseaux aériens, ils sont vulnérables aux effets climatiques, aux événements climatiques, et les tempêtes, les choses comme ça, impactent. Et le fait d'avoir une connaissance très fine sur la manière dont ils sont construits, ça permet de cibler nos mesures d'adaptation. Et là-dessus, le citoyen, il n'est pas gestionnaire de réseau, il n'est pas autorité organisatrice, il n'est pas autorité de régulation, et pourtant, il voit des choses sur le terrain et il apporte sa connaissance. Et ça permet de prendre des décisions plus éclairées. Sans perturber, sans contredire, c'est juste, mais contribuer, parce que là, l'effort est tellement énorme à fournir dans l'adaptation au changement climatique, il est tellement énorme qu'on a besoin de tout le monde. Donc il faut bien qu'on trouve des moyens efficaces au quotidien pour recueillir cette connaissance. Ça va pas chercher plus loin, hein. C'est juste que là, il y a un défi à résoudre. Bon, bah, j'ai le choix, effectivement, soit enfin, j'investis des moyens technologiques démesurés qui seront entre les mains d'une poignée de personnes pour couvrir tout le territoire, ou au contraire, je dis, j'emploie des moyens très, très basiques, très, presque low-tech des fois, et on va mettre ça entre les mains d'une multitude de personnes, et en fait, à la fin, ça ira plus vite, parce qu'au passage, en contribuant, tout le monde se sera fait une idée sur le sujet. Alors que si c'est laissé entre les mains d'une poignée de personnes, personne n'aura vu cet inventaire, cette démarche-là, et on ignorera en fait la nécessité de le faire. Alors qu'ici sur OpenStreetMap, on apprend aussi beaucoup en contribuant sur des sujets auprès desquels on n'était pas prédestiné de se rapprocher, hein, pas du tout. Hein. D'ailleurs, dans les 2 400 personnes dont on parle, c'est pas souvent des électriciens, c'est pas souvent des ingénieurs, hein, c'est surtout des riverains, tout simplement.
C'est vrai que j'avoue que je n'observe pas les poteaux électriques dans la rue. En tout cas, je trouve que ça donne matière à réfléchir aussi sur finalement comment des choses un peu, j'allais dire insignifiantes, mais c'est pas insignifiant, mais on va dire ordinaires,
Ordinaire.
peuvent finalement opérer un vrai changement de paradigme, y compris en fait en matière de politique publique, mais même plus largement de la manière dont on se saisit collectivement de la chose publique
Exactement.
dans toute sa complexité.
On n'imagine pas, il faut quand même se prendre la mesure, souvent dans le débat public, des débats et même des affrontements éclatent, mais tout simplement parce qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Là-dessus, ça touche aussi au travail des médias et la manière dont on explique les choses. Hein.
Dont on n'explique pas.
Ou qu'on n'explique pas, effectivement. Souvent, on ne les explique pas. Et en réalité, pour parler de ce qu'OpenStreetMap a très bien fait ces 15 dernières années sur le sujet de l'adresse, on a été nombreux, moi compris, à découvrir ce qu'était une adresse. Je ne vais pas refaire le film sur la base adresse nationale, hein, et ce qui s'est passé pour construire cette base référentielle. Mais par le fait de la construire, ça a permis à tout un tas de gens de se poser la question de ce qu'était la nature, voilà, bah, d'une adresse par exemple. On s'est aussi posé la question de savoir ce qu'était un poteau. Et on se posera d'autres questions du même genre dès qu'on va explorer voilà, un nouveau champ de connaissances. Et sur l'adresse, moi, ça m'a frappé parce que c'était dingue à quel point on ne savait pas ce que c'était.
Alors du coup, qu'est-ce que c'est en deux mots?
L'idée que j'ai abandonnée, c'était que c'était un objet postal. C'était souvent utilisé pour le côté postal des choses. En réalité, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est un moyen très, très lexical, très littéral de faire le lien avec un lieu géographique. Et on a d'ailleurs découvert qu'il y avait de multiples sortes d'adresses, parce qu'il y avait la boîte aux lettres, évidemment. Mais il y a aussi, sur un bâtiment, hein, il y a l'entrée des véhicules, l'entrée des secours, l'entrée des piétons. C'est pas forcément au même endroit que la boîte aux lettres. Donc, c'est éminemment plus vaste que ça. Le débat presque technocratique de construction de cette base de données, en fait, a été bien plus large que ça, et ça a permis, et heureusement qu'il a été conduit d'ailleurs comme il a été conduit, parce que ça a permis de se réapproprier cette notion d'adresse. J'aimerais juste souligner, pas plus tard que, ça devait être la semaine dernière ou il y a quelques temps, parce que c'est sorti dans la revue hebdomadaire de l'actualité d'OpenStreetMap, on a dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne, donc le pays dans lequel OpenStreetMap a été construit, ou pas plus tard que la semaine dernière, on a l'autorité, l'ordonnance survey et Royal Mail, je crois, l'entreprise postale nationale qui demande des retraits de bases d'adresses parce qu'ils estiment détenir des droits de propriété dessus. Ça serait aujourd'hui, avec ce qui s'est passé en France, ça serait inimaginable parce qu'aujourd'hui, on a la chance, la base d'adresse nationale, elle est dans la loi, la responsabilité est donnée aux communes de la compléter. Voilà, je pense que le débat est tranché et pour vraiment le bien de tous. Mais on a d'autres endroits où même dans d'autres pays développés, le sujet n'est toujours pas considéré comme nous le considérons ici. Et des choses qui paraissent effectivement ordinaires. Ça reviendrait à l'idée de personne de finalement lancer un débat sur la nature de l'adresse. Et pourtant.
J'avoue que en ayant un peu regardé OpenStreetMap, je ne m'étais pas projetée là-dedans, mais je trouve ça d'autant plus intéressant en fait. Je trouve ça assez intéressant comment la définition de ce que sont les choses amène à de vraies questions de définition du monde qui nous entoure. Je fais le point avec ce que tu disais au départ. Je me demandais comment on arrive à se mettre d'accord justement sur des définitions, notamment en cartographie. Tu parlais de définition d'un poteau, comment on se met d'accord sur ce que sont les choses, j'allais dire de manière objective, je ne sais pas si l'objectivité est possible, mais il y a quand même un vrai défi collectif pour réussir à construire une définition qui puisse englober une multitude de réalités des fois qu'on ne soupçonne pas.
Alors plus que l'objectivité, c'est important l'objectivité, et en tant qu'ingénieur, j'aime beaucoup l'objectivité, mais il y a quelque chose d'encore plus important. C'est le consensus. Finalement, qu'importe l'objectivité pourvu qu'on ait le consensus et en la matière. À commencer par OpenStreetMap, beaucoup de choses sont basées sur le consensus. Un consensus mou, un consensus qui évolue d'ailleurs, qu'on peut régulièrement questionner. Sur OpenStreetMap, ça marche comme ça. La définition des objets, on parlait tout à l'heure de sémantique, ce qui fait la nature d'un objet, elle est construite par la communauté. On a donc, dans le monde entier, on a des gens qui sont capables, des gens qui ne se connaissent pas, des gens de cultures différentes, qui sont capables de se regrouper pour se dire « Allez, ce matin, je vais définir ce qu'est un arbre ou un... » On en parle de plus en plus régulièrement, ça me fait sourire parce que ça fait longtemps que sur OpenStreetMap, on est capable de les décrire. Vous savez, les paniers pour récolter les déchets à la sortie des canalisations, pour éviter que ça finisse dans l'environnement. On a un tag aussi pour ça. Et donc... On peut débattre de tout un tas de trucs. Et donc, dans OpenStreetMap, ça se fait comme ça, par consensus, par proposition. Parfois, des votes sont faits pour établir si oui ou non on est d'accord sur la définition d'un objet. Par contre, au niveau national, en France, on a évidemment des instances un peu plus établies. Je pense par exemple au Comité national de l'information géolocalisée, qui vise là de manière institutionnelle et posée voilà, d'établir des standards. Donc là, c'est quelque chose... C'est là où on fait la différence entre ce que fait OpenStreetMap, qui est basé sur le consensus. Alors, le CNIJ, en l'occurrence, ça peut aussi, évidemment, ça peut passer sous l'angle du consensus, mais à la fin, on a quand même un document qui parfois peut être établi au niveau réglementaire. Hein. Y a, l'adresse, par exemple, fait l'objet d'un standard comme celui-ci. On a aussi des instances administratives auprès desquelles on peut se rattacher pour traiter de ces questions. C'est un sujet qui est quand même traité de plus en plus. Parce que, très honnêtement, Même dans la vie de tous les jours, on peut avoir des désaccords sur les définitions des choses. C'est parfois des choses très personnelles. Dans les entreprises, j'ai commencé par travailler dans une très grande entreprise, avec de multiples directions dans tous les sens. Il fallait bien se mettre d'accord sur les termes. Culturellement, parfois, ça n'est pas établi. Et on n'a pas les instances pour en discuter. On n'a pas les outils, on n'a pas le cadre de pensée forcément pour ça. Et OpenStreetMap offre aussi une partie de ce cadre, des méthodes en fait qui naissent de manière informelle sur un coin de table. Tiens, j'ai discuté de ça avec un tel. Et on arrive à des standards qui sont réutilisés par l'industrie. Donc c'est d'ailleurs ce qu'on vise. En tout cas, on le fait dans cet esprit. Je dis pas qu'on n'y est pas encore arrivé. On contribue aux travaux, mais c'est pas encore arrivé. Sur les réseaux électriques, on aimerait beaucoup que ce qui est fait sur OpenStreetMap puisse resservir au-delà du projet, parce que quand on définit ce qu'est un poteau, effectivement, un câble, une armoire, etc., on essaie de décrire ce qu'on voit de manière très pragmatique. Et parfois, dans certains contextes industriels, ça peut être utile d'avoir cette connexion avec le reste de l'environnement. C'est en cela qu'on pense que c'est nécessaire.
Est-ce que tu dirais que le consensus peut influencer le standard?
Ah oui, ah oui, ah oui, ça, je pense que. Alors, il se trouve que d'être activiste en plus a travaillé sur ces sujets, sous l'angle technique d'une part, mais aussi sous l'angle sociétal et, comment dire, humain, voilà, autour de ces standards, c'est quand même une construction humaine. Et il est très clair que, évidemment, que celui qui définit le standard, il ne peut pas être neutre. Il y a des méthodes, hein, on va chercher à s'entourer d'une grande diversité d'acteurs pour tenir compte de cette sensibilité, pour essayer d'avoir ce qui tient le plus compte, hein, des attentes de chacun. Mais oui, on ne peut pas forcément réunir tout le monde, y compris sur OpenStreetMap. On le voit bien quand on fait une proposition qui est ouverte à tous, hein. Tout le monde peut faire une proposition et elle est soumise à tout le monde. On ne peut pas faire plus simple. Mais techniquement, on est limité. Il faut que ça touche tout le monde. Il peut y avoir des biais culturels. Quand on choisit, bon, le langage du projet, c'est l'anglais britannique. Il faut donc parler l'anglais britannique pour comprendre les clés, les propositions, etc. Donc forcément, on ne peut pas toucher tout le monde. Déjà là, ça exclut. Ça peut exclure si on n'a pas les moyens de traduction, etc. qui vont bien. Il y a des choses comme ça. Donc même dans un projet qui a la volonté d'être le plus ouvert possible, et on est parfois rattrapé par des choses qui nous enferment. Évidemment, quand on cherche à établir le standard, il y a déjà le fait de le rédiger, puis après il y a le fait de l'utiliser.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a toujours un petit delta entre la théorie et la pratique. Est-ce que ce delta-là influence justement la rédaction initiale? Est-ce qu'il y a des fois, il y a des, j'allais dire des retours en arrière, pas forcément, mais des modifications? Parce qu'on voit que dans les faits, c'est pas forcément applicable comme tel.
Oui, et qui plus est à l'échelle de temps d'un projet comme celui d'OSM, parce que le temps évoluant, je le redis, en 2004, il y avait plein de choses qui n'existaient pas en fait aujourd'hui. Donc forcément, quand on établit quelque chose pour décrire, prenons un sujet que je connais, la production d'électricité, le modèle attributaire d'OSM pour décrire des installations, pour produire de l'électricité, on l'a vraiment consolidé entre 2011 et 2013. Eh bien, rien que l'âge de ces travaux fait qu'aujourd'hui, on va le questionner parce qu'il y a des moyens de production qui n'étaient pas aussi développés, qui émergent, et ça change, voilà, les choses changent. Donc régulièrement, il faut y revenir. Il faut y revenir d'une part parce que les choses changent, mais aussi parce que en 10 ans, les gens ont utilisé ce qu'on a fait. Et donc, ils l'ont peut-être utilisé d'une façon qu'on n'avait pas prévue. L'aspect sérendipité compte beaucoup parce que, ah tiens, j'avais pensé à ça, et ils s'en sont servis d'une autre façon qui est très intéressante, et du coup, on va la réintégrer. Donc, faut revenir sur les choses régulièrement. Ça, il faut vraiment pas se l'interdire, et parfois sur des projets comme celui-ci, aussi étrange que ça puisse paraître, on a nous-mêmes nos résistances au changement. Quand on a défini quelque chose et qu'on a passé 2 ans à le faire, on n'aime pas que quelqu'un arrive en disant « Ah tiens, moi je vais le changer parce que maintenant c'est comme ça. » On n'y peut rien, mais c'est ce qui fait la richesse de la plateforme. Si on s'interdit ces choses-là, si on s'interdit de changer, d'évoluer, et de tenir, enfin de, voilà, de continuer, de s'adapter à la manière dont les choses évoluent, je pense que ça perdra d'intérêt, tout simplement. Il faut qu'on maintienne, voilà, cette capacité à innover. Et je pense, enfin là-dessus, j'ai pas de crainte, je sais que certains savent très bien le faire. Donc voilà, mais ça existe, oui.
Et alors, vu qu'on parle beaucoup de changement et d'évolution, je me faisais une réflexion. Régulièrement, je passe devant des endroits qui sont en chantier et je me dis, qu'est-ce qu'il y avait avant?
Oui.
Alors, est-ce que c'est possible de cartographier ce qui, du coup, a disparu ou ce qui n'existe plus?
Oui.
Et comment on fait pour le faire coexister avec ce qui, peut-être, va exister à la place?
Il est vrai que sur OpenStreetMap, on s'attache d'abord à l'existant. Ce qui fait que quand quelque chose disparaît, on a tendance à le supprimer. Sur le principe de vérifiabilité, si on commence à mettre des choses qui existaient avant, en fait, il y a tout simplement des gens qui n'ont pas connu ces endroits, ne sont pas capables de faire appel à leurs souvenirs pour vérifier que ce qui est mis est bien conforme à ce qui existait avant. Donc on le supprime. Mais il existe un projet cousin qui s'appelle Open Historical Map, qui peut être vu comme orthogonal à OpenStreetMap parce qu'on va avoir la profondeur temporelle. Là, on va être capable de cartographier des lieux très historiques, hein, préhistoriques même, ou des choses comme ça. On peut rester dans l'époque moderne, hein, et on peut cartographier effectivement des bâtiments qui n'existent plus. Mais il faut plutôt voir, alors j'aime beaucoup cette idée, mais c'est pas encore complètement une réalité, qu'on verse ce qui est supprimé d'OpenStreetMap, qu'on le verse dans Open Historical Map par exemple. Aujourd'hui, c'est pas fait directement, c'est pas perdu pour autant, parce que en réalité, on supprime les objets d'OpenStreetMap, mais ils persistent dans l'historique.
Oui, c'était ma question suivante. Est-ce que vous avez des archives, finalement? Oui. Je ne sais pas comment appeler ça autrement.
En quelque sorte. En fait, d'abord pour des questions de maintenance, pour être capable de restaurer ce qui aurait été supprimé à mauvais escient, on est obligé de garder ces traces-là. Et il se trouve que par la force des choses, en fait, ça s'accumule. Donc il y a bien une base historique qu'on peut explorer. Ça existe. Elle n'est modifiée qu'en cas de litige ou de fait qu'il y ait de la copie de données qui n'aurait jamais dû se retrouver dans OpenStreetMap. Là, l'exploitant va venir supprimer, va venir rédiger le contenu de la base pour que justement on ne le retrouve plus dans l'historique. Mais sinon, pour ce qui est des bâtiments détruits, eux, ils vont persister à condition qu'ils aient été cartographiés du temps de leur existence. C'est surtout ça. Donc ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut effectivement pas cartographier si on a connaissance de bâtiments même antiques ou de choses comme ça qui ont vraiment complètement disparu. Parce que là, on va avoir du mal à les ajouter à OSM. Par contre, on va pouvoir aller les mettre dans Open Historical Map si on le souhaite. Pour des questions de soutenabilité, parce que en même temps, éditer la base de données, parce que quand on édite la base, on édite tout ce qu'il y a dedans. Sur une zone, on voit tout ce qui se trouve dedans. Si on devait en plus considérer ce qui n'existe plus, qui n'est parfois plus rattaché à aucun point de repère dans l'environnement, dans des quartiers urbains par exemple qui ont été complètement réaménagés, si avant c'était des usines, on sera incapable de décrire avec précision, sauf à avoir des vues aériennes d'époque par exemple, saluer l'outil remonter le temps de l'IGN là-dessus, qui est une merveille, mais qui est loin d'être une généralité dans le monde. Hein. On n'a plus souvent pas accès à cette connaissance que dans la situation privilégiée en France dans laquelle on se trouve, où on peut retrouver. Donc évidemment, il y a des endroits où on sera incapable de tracer ce qui s'y trouvait avant, parce que ça a complètement disparu. Donc c'est pour ça qu'on privilégie l'existant, et on a un œil. Pour l'œil, c'est très facile, parce que quand quelque chose n'existe plus, on peut facilement l'enlever. C'est une commodité quand même assez importante pour tenir à jour ce qui compte. Et c'est pour ça qu'en effet, quand il y a des travaux, on passe du temps à les suivre. Alors OpenStreetMap peut avoir un intérêt par contre pour suivre les projets en développement. C'est comme ça que France, hein, toujours dans notre parcours administratif très structuré, on a la chance d'avoir des déclarations d'utilité publique et avant que l'ouvrage sorte de terre et par les informations qui sont contenues dedans, on peut préparer la cartographie dans OSM. Il y a des choses qu'on peut anticiper comme ça. Par contre, quand ça a véritablement disparu, ça disparaît très vite de la base parce que on ne le voit plus.
Et alors du coup, je ne sais pas si je peux dire que tu as en partie répondu à ma question suivante qui était, mais est-ce qu'on peut tout cartographier? Est-ce que tout est cartographiable ou pas vraiment?
Non, on peut pas tout cartographier. On peut cartographier beaucoup de choses. Hein. Je ne veux pas faire peur ni frustrer en fait, ceux qui se diraient « Ah mince, vraiment, bon non, en fait c'est nul ». On a un très 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 grand terrain de jeu, honnêtement, je ne suis pas sûr d'en voir la fin. Là-dessus, il n'y a aucun doute, on peut passer un temps certain sur ce qu'on peut faire, mais il y a effectivement tout un tas d'endroits qu'on ne peut pas cartographier, tout comme il existe un certain nombre d'exceptions de données qu'on ne peut pas publier. C'est normal, on ne peut pas, de manière assez élémentaire, mais on ne peut pas cartographier l'intérieur des maisons, on ne peut pas les cartographier chez les gens. On ne peut pas cartographier les gens tout court, on ne peut pas dire « un tel habite là ». Ça, ce sont des données personnelles. En France, il y a des zones d'exclusion interdites à la captation de données aéroportées.
Comme les zones militaires, j'imagine.
Par exemple, voilà. Quand il y a du flou sur la vue aérienne qu'on utilise, généralement, ce sont des endroits dans lesquels on n'a pas le droit de décrire en fait, ce qui s'y trouve. Généralement, il y a des nuances, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, il y a des endroits où on ne peut pas, pour des raisons diverses et variées, mais donc ça, on évite. Et sur OpenStreetMap, on ne cartographie que les données statiques, c'est-à-dire une route, un bâtiment, un commerce, une borne incendie. Par contre, on ne va pas cartographier les voitures. Je caricature volontiers, mais c'est parce que tout ce qui est dynamique est de nature beaucoup trop changeante pour être dans la base et surtout être actualisé. Parce que On se dit qu'on a suffisamment de contributeurs pour, ok, quand il dévie la route, quelqu'un va forcément s'en apercevoir à un moment, donc il la déviera de manière avec une bonne réactivité. Par contre, dire, là, il y a un bouchon, comme sur des services bien connus, aussi collaboratifs, hein, mais voilà, des services qui vont informer sur l'état du trafic. Non, sur OpenStreetMap, on ne peut pas être derrière notre... On n'a pas de moyens, d'une part, pour consolider cette information, et on ne va pas être derrière notre PC à chaque fois pour dire « Ah, là, il y a un bouchon ». Il y a des entreprises qui ont des technologies qui permettent de consolider cette information, mais ce n'est pas ce qu'OpenStreetMap recherche. Nous, on se focalise vraiment sur la donnée statique.
Tu parlais de données statiques, je pense à Carto de Chou, qui justement cartographie les... Enfin, je ne sais pas si on peut dire cartographie du coup, mais en tout cas présente en temps réel la circulation de tout un tas de trains. Oui.
C'est super de mentionner le travail de Nicolas là-dessus, parce qu'il est vraiment magnifique. Et ça, il a une longévité qui est à saluer là-dessus. Et il a développé ce magnifique démonstrateur au fil du temps. Et aujourd'hui, on arrive effectivement à voir la position des trains. Alors, il y a une nuance qu'il faut que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est que le déplacement d'un véhicule comme un train, je l'ai expérimenté aujourd'hui, il n'est pas toujours prédictible, mais on peut quand même avoir une bonne confiance de son emplacement par la connaissance des voyages prévus. Et c'est comme ça que fonctionne Carto de Chou d'ailleurs. Pour les trains, ça fonctionne. Pour les transports publics aussi, ça peut fonctionner. Mais quand un car est bloqué au milieu d'un bouchon, bon, les informations de retard arrivent, etc. On peut extrapoler cette position, on peut deviner l'endroit où il est bloqué, mais si on n'a pas sa position exacte, ça devient déjà plus dur. Et on ne parle pas du coup des moyens personnels, des voitures et autres, ou alors là, c'est complètement imprévisible. Ce qu'exploite Carto de Chou, c'est habile, hein, c'est vraiment très avisé d'avoir fait comme ça, et il peut le faire grâce à plein de données, etc., qu'il extrapole, mais c'est valable pour le train.
Qui n'est pas si pire en France par rapport à d'autres pays.
En effet. C'est les données ouvertes qui nous l'apprennent aussi. Je veux dire, en effet, les données ouvertes sont aussi un magnifique vecteur anti-fake news et anti-préjugés, parce qu'on va aussi, grâce à ça, combattre un certain nombre parfois de préjugés, comme le retard des trains, oui, je confirme.
Merci beaucoup pour toutes ces réponses et cette discussion. Je vois que le temps tourne. Peut-être qu'on peut passer à notre dernière question traditionnelle, oui. Qui est « Qui aimerais-tu entendre dans un prochain épisode de Persons of Internet ?»
Ouais, bonne question. Alors, je vais essayer, au risque de citer des gens qui ont déjà été interviewés et donc que je n'aurais pas entendu. Il y a quelqu'un qui, a marqué, bon, ils sont plusieurs, mais lui en particulier a marqué l'essor, voilà, du numérique public qu'on a, et des données ouvertes en particulier, je pense souvent à Henri Verdier. Est-ce que j'ai un autre nom par exemple Nicolas, hein, on a cité, moi j'en ai retenu deux là, dans notre discussion, il y a Raimé sur Grist et Nicolas Wurst, et ce sont là aussi deux personnes qui illustrent par la pratique le champ de toutes les possibilités de ce qu'on peut faire avec les données géographiques en plus publiques et crowdsourcées, donc oui, là ça fait aussi deux belles idées. Mais il est peut-être déjà venu, je ne sais pas, il y a Gaëlle Musquet aussi. Voilà. Je n'ai pas cité beaucoup de femmes, et c'est un tort. Bon, il y a évidemment, on la cite, mais Axelle Lemaire, je pense qu'elle a encore, elle a encore des choses à dire, évidemment. Laure Lucchesi, évidemment. Et là, je pense à deux personnes que vous pourriez recevoir. C'est Noémie Léhubi de Jungle Bus et Marina Petkova de Dinarcio.
Ce sera le mot de la fin, alors. Merci beaucoup, François.
Merci à vous de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir.
Plaisir partagé. Et puis, à très bientôt dans un nouvel épisode.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt.